en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean-Clair, de son vrai nom Gérard Régnier, est né en octobre 1940. Il a une double vision, l'une résolument moderne, l'autre non moins farouchement critique de la modernité, selon les mots de Marc Fumaroli, son confrère au sein de l'Académie française, où il a été élu le 22 mai 2008 au fauteuil de Bertrand Poirot-Delpech. Après des études de lettres et d'histoire de l'art, il est introduit dans le monde littéraire pour 25 ans comme chroniqueur d'art de la Nouvelle Revue française. Parallèlement, il exerce son métier principal en devenant conservateur des musées à partir de 1966. Il a ainsi été professeur à l'École du Louvre, conservateur du cabinet d'art graphique du musée d'art moderne et du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, du fameux Beaubourg, conservateur général du patrimoine, directeur du musée Picasso et directeur de la Biennale de Venise pour l'année 1994, enfin la Biennale de 94. Jean-Clair, parmi vos livres, citons Méduse, citons le court traité des sensations, vos catalogues, La fabrique de l'homme nouveau pour le dernier, Mélancolie, Génie et folie en Occident en 2005 et puis L'âme au corps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous écrivez « Je suis né au néolithique quand l'agriculture a succédé à la cueillette. J'ai vécu les temps modernes du moteur. Je mourrai au paléolithique. » Où vous situez-vous, Jean-Clair? Vous qui préférez peut-être la géographie à l'histoire et la fantaisie à la froideur d'un état civil trop bien décliné.
Vous allez me demander quand? Je ne sais pas, je suis en l'air, mais je crois que je ne suis pas le seul à me sentir pour l'instant dans une espèce d'état, non pas d'apesanteur, au contraire de gravité extrême, de lourdeur extrême, de pesanteur extrême, pesanteur de plomb saturnienne, en me demandant où est-ce que ça va s'arrêter. Ça n'empêche pas de temps en temps des envols.
Vous êtes désespéré de notre monde moderne?
Non, désespéré, ce n'est pas du tout le cas. Non, mais je suis extrêmement heureux de vivre à notre époque. Je suis extrêmement heureux de voir la Seine par la fenêtre de votre bureau, de voir le ciel, de voir beaucoup de choses, mille choses. Je crois être extrêmement sensuel et c'est quelque chose qui vous sauve complètement d'être à ce point perméable aux sensations. Mais ce qui m'enrage, mais je crois que je suis de moins en moins seul dans cet enragement, c'est tout de même de voir l'extraordinaire... Est-ce que j'oserais dire grossièreté de notre époque?
Vous la qualifieriez d'obscène?
Oh, encore non, même pas. Si c'était obscène, au moins ça aurait un intérêt, mais ça ne l'est même plus. L'obscénité, mille fois répétée, cesse d'être obscène. Donc, non, c'est plus que ça. C'est plutôt une entropie extraordinaire de... Comment dire? C'est un peu une question, puisqu'on est à l'académie, une question de vocabulaire, une question de lexique, une question de grammaire, non, une question de langue. Je suis stupéfait de la fantastique pauvreté du vocabulaire de mes contemporains, et plus encore de ceux qui sont plus jeunes que moi, avec un lexique qui ne dépasse guère 700 à 800 mots. Et c'est ne pas posséder sa langue, c'est être exilé dans sa propre patrie. Or, comme je suis né dans un milieu de paysans, l'acquisition du langage, le fait de pouvoir posséder des mots de plus en plus riches, de plus en plus nombreux, a toujours été une espèce de merveille continue et de plus en plus grande, mois après mois, année après année, encore aujourd'hui, une espèce d'ivresse d'utiliser les mots, de les découvrir. Et là, je vis dans une société qui méprise de plus en plus la richesse des mots, qui méprise de plus en plus la subtilité extraordinaire d'une grammaire qui nous permette de moduler tous les rapports complexes qui unissent les pensées entre elles. Et c'est cela, si vous voulez, qui me terrorise, parce que j'ai l'impression de rentrer dans un monde de barbares, au sens étymologique du terme. Les gens qui campaient sur le bord du limès romain et qui n'étaient pas capables de prononcer plus que quelques éructations barboriques, mais barbares. Voilà la raison de ma fureur.
D'où vient cet amour des mots?
Je ne sais pas. Je crois que c'est le plus grand trésor qu'on puisse posséder. C'est avoir disponible un mot pour désigner une chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, particulièrement quand on a la chance de naître dans un milieu très défavorisé. Je crois qu'une ivresse extraordinaire a progressivement possédé les mots et à travers la possession des mots, posséder les choses, forcément.
Il y en a un pour lequel vous êtes parti en guerre, qui est ce mot justement culturel, de culturel, qu'on accole très souvent à
un substitut, succès donné de la culture, oui, c'est ça.
Vous persistez et signez dans cette...
Plus que jamais, culturel, c'est un mot qui est apparu, je crois, au début des années 70, et c'est la dégradation de la culture en activité qui prétendent être au service de la culture, qui prétendent user de la culture comme d'un filon, un filon culturel. Donc vous avez les animateurs culturels, les produits culturels, les agents culturels.
Les ingénieurs culturels.
Aussi, effectivement, vous en avez comme ça. Toute une série, et c'est abominable. Parce qu'il est évident que la culture n'est pas de l'ordre de la consommation et moins encore de l'investissement et de la ressource. C'est tout à fait autre chose.
Mais là, c'est une question de vocabulaire.
Non, pas du tout. À partir du moment où le culturel est accepté comme allant de soi, eh bien, vous avez le Louvre par votre fenêtre, là, qui n'est plus du tout un lieu de culture, mais un lieu de divertissement, d'investissement culturel. C'est plus du tout la même chose. On parle plus du tout de la même chose. Et si vous voulez, le mot culture lui-même, mais là, je vais très loin, est un affaiblissement de l'ancien culte. Donc vous avez trois stades au fond dans cette espèce de ce que j'oserais appeler une décadence, oui. De l'esprit européen, c'est le passage du culte à la culture et le passage de la culture au culturel. Autrement dit, le passage de ce que Kierkegaard, excusez-moi de citer les bons auteurs, aurait appelé le passage du stade religieux au stade éthique et du stade éthique au stade esthétique. Nous en sommes au stade esthétique, c'est-à-dire à quelque chose qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui est en train de s'effondrer d'ailleurs sous nos yeux et qui nous laisse dans un grand désarroi.
Effectivement, vous n'êtes pas le seul, comme vous le disiez, à penser les choses comme ça, en termes de gravité, de déclin civilisationnel. Vous n'avez pas utilisé ce terme-là, hein ?
Non, c'est pas ça. Je sais pas l'utiliser.
Mais donc, ça n'est pas qu'une question de vocabulaire, c'est pour vous une question de langue fondamentale. Quelle serait votre définition de la culture aujourd'hui, alors ?
Ça passerait d'abord par une réforme radicale de l'enseignement, c'est-à-dire une revalorisation, précisément de l'étude de la langue et de la littérature. Je crois que ce n'est pas du tout l'impression qu'on a pris ce chemin-là. Je crois qu'on a pris exactement le chemin inverse, qui est absolument désastreux. Mais ne vous méprenez pas, je ne défends pas la langue française. Je défends la langue, ce qui est très très différent. J'ai la chance de pouvoir parler à peu près couramment plusieurs langues.
Mais vous êtes
je suis aussi à l'aise en anglais qu'en français, en italien qu'en anglais. J'éprouve une volupté profonde à passer d'une langue à une autre. Et je ne suis pas attaché au français comme à ma baguette de pain et à mon béret basque. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est vraiment tout à fait l'opposé. C'est la maîtrise d'une langue qui vous permet de vous ouvrir à la maîtrise d'autres langues. Parce qu'après tout, toutes les langues fonctionnent à peu près selon les mêmes principes. Et si vous en possédez une ou deux, vous en possédez trois ou quatre très facilement. Et à partir du moment où l'enseignement du français partira de cette idée d'une fantastique complexité et en même temps de cette infinie richesse de la langue, je crois que la culture viendra d'elle-même, forcément.
On commence à faire ces réformes de fond,
oui,
puisque les langues ont été introduites dans les petites écoles,
oui, on est
l'école
en train de revenir
primaire,
à des principes élémentaires.
On y revient, ça portera
j'espère,
ses fruits probablement plus tard. Vous écrivez que le dictionnaire qui vous servait d'outil pour découvrir le monde, parce que c'est
comme ça, c'est de là d'où vient
votre amour des mots. Dans votre enfance, vous disiez de ce dictionnaire qu'il mentait par omission. J'ai trouvé jolie cette formule et je voudrais vous demander si c'est le cas du dictionnaire de l'Académie française auquel vous collaborez.
Lors de ces séances, tous les jeudis matins. Pas toujours.
Bon, quel est le mot sur lequel en ce moment l'Académie travaille
Ah là, vous me posez une colle, mais je ne le sais pas. Nous sommes dans les P, je dirais précision, alors si vous voulez préciser. Mais c'est très passionnant de travailler
d'une
sur
séance.
Les mots du dictionnaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout dogmatique et ce n'est pas du tout professoral et ce n'est pas du tout autoritaire. Au contraire, on est là un certain nombre de gens qui partageons, je crois, de l'autre bout de la langue, le sens presque physique, sensuel de la langue et qui partageons nos expériences. On n'a pas la même histoire, on ne vient pas des mêmes milieux, on n'a pas du tout les mêmes spécialités, entre guillemets. Et par conséquent, on échange l'idée qu'on se fait d'un mot et grâce à nos passés différents, à notre culture différente, on éclaire le sens d'un mot, on le précise, on l'affine. Il est évident que l'homme d'église pourra nous apporter des précisions que nous, laïcs, nous ne pouvons pas apporter. Le praticien, le médecin, l'ophtalmologue, pour ne pas le nommer, Actif Pouliquin apportera bien évidemment des précisions sur tel ou tel mot scientifique plus ou moins récent que nous ne pouvons pas nous avoir. Donc il y a là un échange extrêmement libre, extrêmement drôle, c'est très drôle ces réunions, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est très enrichissant parce que c'est très drôle. On touche à la vie, c'est pas du tout mort, c'est pas du tout l'Académie telle qu'on la croit dans les caricatures. C'est au contraire une chose extrêmement vivante.
Vous parliez des langues que vous connaissiez, des langues étrangères.
Oui.
Vous auriez un exemple. Vous intervenez sur des domaines de l'art, probablement, mais sur d'autres, surtout.
Bon, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, effectivement, si on fait la linguistique comparée, pour utiliser un terme bien pédant, c'est qu'on peut, effectivement, plus facilement comprendre les sens plus ou moins chatoyants, variés, d'un mot en français par rapport à son homologue en italien.
Ça arrive souvent
que vous fassiez référence aux autres langues pour affiner...
C'est
pas très fréquent, mais ça peut arriver qu'en italien, le mot veut dire cela. Il a ce sens-là, évidemment. L'origine est la même, mais entre-temps, l'histoire était un peu différente, donc les harmoniques ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est intéressant.
Alors, que représente l'écriture dans votre vie? Parce que vous écrivez, vous aimez les mots, bien entendu, mais vous avez écrit très tôt, et à 22 ans, vous avez publié votre premier livre, Les chemins détournés. C'est une nécessité, et qu'est-ce que c'est pour...
Vous l'avez dit, c'est une nécessité, mais ne me demandez pas pourquoi cette nécessité. D'abord, je n'aime pas parler, contrairement à ce que vous pouvez croire. Je déteste parler. Donc l'ordre de la langue écrite est totalement différent. On est dans un autre monde et j'ai l'impression que ça ne mobilise pas les mêmes zones corticales dont on parlait tout à l'heure que la parole. C'est tout à fait autre chose. Mais c'est très
difficile.
Vous
publiez vos carnets.
Oui, c'est un des journaux plus très libres, des réflexions très très libres.
Sans un exercice très fréquent pour vous.
Un exercice mental et moral, c'est très très utile. Ce n'est pas un journal de raison, mais c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à cela. Oui.
On peut vous demander ce que vous lisez en ce moment ?
Ce que je lis en ce moment ?
Je ne sais pas.
Si je vous le dis, alors ça va sembler tellement bête. Je relis Marcel Proust. Je n'avais pas lu depuis, oh là là, je ne sais pas, 15 ans peut-être. Je me suis replongé dans Marcel Proust avec un ravissement accru. Et en particulier, la partie de la recherche qu'on ne lit jamais, parce qu'on n'arrive jamais au bout, qui est le temps retrouvé, c'est-à-dire Paris pendant la guerre de 14. Les aventures du baron de Charlus dans les endroits les plus sordides de Paris, de ce point de vue-là, je crois qu'on n'a jamais vu à quel point Proust pouvait être un chroniqueur absolument féroce des milieux les plus horribles, les plus sordides de la vie parisienne de l'époque. Tout ça pendant la guerre, donc au moment où les bombes tombent sur Paris, les canons Grosse-Bertha, les tarobos qui volent dans les bras. C'est un monde très très curieux, qui n'a rien à voir du tout, enfin qui a très peu de choses à voir avec le premier Proust que l'on connaît du côté de Guermantes ou du côté de chez Swann. Tout à fait un autre monde, très sombre, très dur, extrêmement étouffant aussi.
C'est une partie en ce moment de votre vie, d'être particulièrement sombre ou d'être exposition Crime et Châtiment.
C'est un peu par hasard. Mais effectivement, ça m'a donné quelques exemples d'une criminalité ou de Proust associé à une criminalité qui n'est pas tout de même une image très très fréquente ou dont on parle beaucoup.
Vous êtes peut-être particulièrement attentif en ce moment
oui,
à ce genre de thème.
Oui, c'est ça, la fascination de Proust pour le langage des Apaches, c'est quand même assez étonnant.
Ça vous a surpris.
Oui, ça m'a surpris. Parce qu'on n'en parle pas. Quand il parle de suriner la pipelette du coin, oui, c'est Proust qui a écrit ça. Évidemment, ce n'est pas lui qui parle. Il fait parler Jupien, mais enfin quand même. C'est une autre recherche du temps perdu, là.
Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire votre épée d'académicien ?
D'abord, ce n'est pas vraiment une épée, c'est une lame assez courte et assez fine. Je peux vraiment avoir aujourd'hui un usage militaire ou guerrier quand même assez limité. Donc c'est simplement une petite lame, une petite épée d'apparat surmontée alors d'une sculpture faite par un de mes amis qui est Ivan Timer, un sculpteur d'origine tchèque qui a quitté la Tchécoslovaquie au moment de l'invasion soviétique, qui depuis longtemps, peut-être aussi parce qu'il m'a bien lu, consacre une partie de son œuvre à faire des méduses. Donc je lui ai demandé de faire un pommeau avec deux têtes de méduses.
Deux têtes.
Deux têtes de méduses confrontées, oui. Peut-être pour indiquer, je ne sais pas, une ambiguïté ou une opposition. Je suis celui qui a le devoir de porter cette épée. Et ces deux têtes de méduses, qui sont des figures prophylactiques, comme vous savez, c'est à la fois des figures inquiétantes, mortifères. La méduse porte la mort avec le fil de l'épée qui va avec, qu'elle coupe, elle tranche. Enfin, c'est plutôt ces percées qui tranchent la tête de Méduse pour en faire une face prophylactique qui est de protection. Donc c'est normal qu'une épée soit protégée par une espèce de bouclier prophylactique qui est une tête de Méduse. Et entre ces deux têtes accolées, il y a un petit cristal de roche irrégulier, polyédrique, 12 faces, donc qui évoque très directement le très curieux polyèdre irrégulier d'Urer dans la gravure de la mélancolie.
Vous avez fait graver des mots sur la lame ou pas, ou une phrase ?
On m'a demandé de la faire graver une devise, mais l'Académie vous oblige à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait normalement. Mais il y a une phrase depuis longtemps qui me fascinait, que j'ai trouvée un jour sur le fronton d'une maison écroulée à Torcello, dans la lagune de Venise, à côté de Venise. Et ce fronton porte gravé sur cette pierre écroulée, cette devise gravée sur ce fronton, se lit comme ça en latin, « Et si omnes ego non ». Ce qui veut dire « si tout le monde y va, moi je n'y vais pas ». Si tout le monde le fait, moi je ne le fais pas. Si tout le monde le dit, je ne le dis pas. Ce qui est effectivement faire preuve d'un orgueil démesuré, mais en fait, quand on y réfléchit, la devise est extrêmement, là aussi, à double face. En fait, la phrase, c'est celle que prononce Pierre, l'apôtre, au moment de l'arrestation du Christ. Et Pierre a l'orgueil de dire « Et si omnes ego non, si tous le dénoncent, moi je ne le dénoncerai pas. Moi je ne le livrerai pas. » 3 minutes après, il le livre. À peine a-t-il dit cette espèce de manifeste orgueilleux de son intégrité qu'il trahit son maître. Mais en même temps, cette phrase a été par la suite utilisée dans des circonstances très particulières, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, par un très grand résistant allemand qui l'avait choisi comme devise pour dire « si tous les Allemands votent pour Hitler, moi je ne voterai pas pour lui ». Il l'a payé de sa vie. Et en allemand, ça se disait « ich nicht », moi non. Donc j'ai trouvé que cette ambiguïté était extrêmement intéressante, une phrase qui à la fois signale votre totale précarité, votre totale vanité d'être humain qui s'imagine, et qui évidemment fait pire que les autres, mais aussi en même temps peut-être un engagement moral qui dans certains cas peut se révéler à la fois très courageux et très beau.
Marquons une courte pause, Jean-Claire, retrouvons-nous dans quelques instants. Merci d'avoir évoqué votre épée. Vous disiez dans votre discours de réception sous la coupole, vous n'aviez pas prévu évidemment d'être un jour à l'Institut. Après la littérature et l'écriture, parlons d'art, un domaine qui vous est tout à fait familier, sinon plus, puisque vous avez fait carrière dans le monde des musées et que vous êtes critique et historien d'art. Alors, rappelons, je l'ai dit tout à l'heure très brièvement, que vous avez été directeur du musée Picasso de Beaubourg et puis de la Biennale de Venise en 1994 et commissaire de grandes expositions parisiennes. Entre art d'aujourd'hui et art contemporain, Jean-Claire, quelle différence établissez-vous entre ces deux expressions ?
Vous savez, l'expression art contemporain, c'est uniquement un label, c'est une griffe. Un art qui est fait aujourd'hui est forcément un art contemporain. N'importe quel artiste vivant ou travaillant aujourd'hui est forcément un art contemporain. Sinon, je ne vois pas, c'est celui qui vit en même temps que vous. Oui, bien sûr. Simplement, c'est devenu aujourd'hui, dans la façon d'utiliser le terme art contemporain, une espèce de sigle, de griffe valorisant la chose. En fait, l'expression art contemporain, le syntagme art contemporain figé, est apparu au moment où un autre syntagme figé disparaissait du vocabulaire des critiques d'art, qui était celui de l'avant-garde. Ne se vendaient sur le marché de l'art que les objets, que les œuvres d'avant-garde. Puis à un certain moment, après de très longues batailles, on a compris que tout de même l'avant-garde n'avait de sens que par rapport aux années 10 et par rapport à une avant-garde politique qui était essentiellement celle du progressisme, en particulier en Union soviétique. Et par conséquent, la disparition des utopies révolutionnaires, ipso facto, la disparition de la notion d'avant-garde en art. L'avant-garde en art a totalement disparu depuis belle lurette. Comme il fallait que le marché de l'art retrouve une espèce de petite lumière rouge clignotante, on a inventé l'idée d'art contemporain. Encore une fois, n'importe qui est un artiste contemporain, tout est de l'art contemporain, y compris le type sur la passerelle des arts qui est en train de faire une aquarelle de l'île qu'il a en face de lui. C'est aussi de l'art contemporain. Bon, donc tout ça, c'est uniquement des artifices de langage assez agaçants, je dois dire. Et donc,
parce que
question...
vous y voyez un mélange, art d'aujourd'hui, art contemporain. Bon, art contemporain, on comprend ce que vous voulez dire, mais il y a forcément une interprétation différente pour le public ou le grand public qui n'y voit peut-être pas la griffe à laquelle vous pensez.
Oui, on va dire, le grand public jette le bébé avec l'eau du bain, il ne peut pas faire autrement. Pour lui, l'art contemporain dans l'ensemble, ça va des colonnes de Buren au Palais Royal, je ne sais pas quoi, aux copulations de Jeff Koons avec la Cicciolina, et en passant par, je ne sais pas quoi, ce qu'il voit rue Bonaparte, par conséquent, pour tous, c'est exactement la même chose. Il jette le bébé avec l'eau du bain parce que dans cette espèce de nébuleuse monstrueuse appelée art contemporain ou art d'aujourd'hui, vous avez tout de même quelques étoiles de première grandeur qui sont des artistes, des individus qui continuent à faire de l'art et qui sont de très grands artistes aujourd'hui, comme autrefois dans les années 20 ou dans les années 1880, vous avez eu de très grands artistes.
Quels sont les artistes que vous appréciez ?
Moi, je ne fais pas mystère de certaines de mes admirations, en particulier un artiste qui va à nouveau être montré à Beaubourg dans un mois, qui est Lucian Freud, le petit-fils de Sigmund Freud, et qui est à mon avis un des plus grands peintres actuels, que j'avais montré à Beaubourg en 1984.
Vous avez déjà
fait une exposition,
il y a très longtemps.
Et à l'époque, je me suis fait fusiller dans la presse écrite française. Je montrais de la peinture académique. Oui, il y en a d'autres aussi, des artistes comme ça.
Vous avez un autre nom ?
Je pense qu'il y a des gens comme Safran, qui sont un très grand artiste. Harry Kack, d'origine israélienne, qui est un très grand portraitiste. Mason, qui est un Écossais. Oh, non, vous voyez, encore aujourd'hui, une école de Paris, c'est des gens qui sont venus de l'étranger. Qui
le
sont
sculpteur ?
Qui ont choisi de venir travailler à Paris, comme autrefois la première école de Paris. Qui s'occupe de ces gens-là ? Personne. En tout cas, pas les institutions qui sont supposées s'en occuper. D'où une certaine véhémence de ma part. On est bon. Peut-on être à ce point aveugle ?
Est-ce que vos griefs ne portent-ils pas contre le milieu de l'art ? plutôt que sur les mots.
Oui, oui, mais je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez un marché de l'art aujourd'hui qui fonctionne, avec des cotes absolument extravagantes. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Si L'Homme qui marche de Giacometti se vend 74 millions d'euros, je peux très bien comprendre que sur un marché où les grands chefs-d'œuvre ont disparu, le moindre chef-d'œuvre qui apparaît obtient une cote sans limite, puisqu'il fait partie des 5 ou 6 grands chefs-d'œuvre qui sont encore sur le marché. Donc il n'y a pas de limite. Je suis plus perplexe devant des chiffres tout aussi extravagants portant sur des œuvres que je ne citerai pas. Là, je pense qu'il s'agit de mécanismes de marchandisation extrêmement subtils et qui, selon moi, ne sont pas très éloignés des systèmes financiers qu'on a appelés, qu'on a appris à connaître récemment sous le nom de titrisation, hedge funds et autres chaînes de Ponzi.
Qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre pour vous, Jean-Claire ?
C'est quelque chose qui me conquiert immédiatement. C'est de l'ordre du coup de foudre.
Alors, quelle est la fonction d'un musée en ce début de 21e siècle ? Vous êtes déjà exprimé beaucoup sur ce sujet.
Oui.
On sait que vous avez pris part à la controverse sur le Louvre d'Abu Dhabi. Prochainement, un annexe de Beaubourg à Metz va ouvrir en mai 2010. Vous avez écrit Le malaise dans les musées, qui a fait du bruit récemment sur ce sujet. Mais quelle est la fonction d'un musée aujourd'hui ?
Ça entraîne des questions absolument énormes qui portent précisément sur l'idée que l'on a d'une civilisation, de l'art, du culte et de la culture. Pour moi, il est évident que le patrimoine du Louvre transposé à Abu Dhabi est le maximum, le comble de l'hypocrisie. Quand on en parle comme d'un dialogue des cultures, il n'y a aucun dialogue des cultures, ce n'est pas vrai. Les motivations sont tout à fait différentes. Mais bon, c'est plus compliqué que ça. J'avoue qu'après 40 ans passés au service des musées, j'ai de plus en plus de mal à comprendre à quoi sert un musée. Et parfois, je suis effaré. Mais bon, je ne suis pas pour mettre le feu au musée, pas du tout. Paul Valéry disait déjà la même chose au début des années 20, en se posant la question de savoir à quoi servent les musées, à quoi servent ces empilements prodigieux, mais aussi monstrueux, d'objets hétéroclites, arrachés à leur destination première, privés de leur fonction sacrée ou sociale, mis à disposition d'une espèce d'admiration extrêmement vague et flou de la part de millions de visiteurs. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Alors, un certain nombre de questions commencent de se poser à partir du moment où la culturification, la culturalisation de l'œuvre d'art, au point où elle a été poussée chez nous en Occident et particulièrement en France. C'est-à-dire, à partir du moment où au musée du Quai Branly, par exemple, on met des objets cultuels comme objets de culture, eux-mêmes dégradés, objets de culture en objets culturels, vous avez des réactions qui se font de la part des populations qui sont à l'origine de la fabrication de ces objets et qui réclament la restitution, en disant ces objets-là que vous manipulez, que vous exposez, n'ont jamais été faits pour être manipulés ni exposés. Donc nous demandons la restitution de ces objets. C'est vrai de beaucoup de populations indigènes, c'est vrai des Indiens, c'est vrai du Vanuatu. Alors bon, je dis oui, mais ça c'est des populations lointaines, c'est des cultures primitives, entre guillemets, des cultures premières. Nous les avons annexés. Oui, mais par exemple, dans la Russie post-soviétique d'aujourd'hui, quelques-unes des plus belles icônes du XIIe siècle, de Roubliov ou d'autres, présentées au musée Pouchkine, qui étaient donc devenus des objets d'art, des objets culturels, sont à nouveau des icônes devant lesquelles la foule s'agenouille et prie. Ces icônes redeviennent des objets de culte. Bon, ça peut être un phénomène purement passager, extrêmement des vieilles babas russes. J'en suis moins sûr et je me dis que là, il y a un malaise effectivement dans les musées qui dépasse de loin la marchandisation du Louvre à Abu Dhabi. Il y a là brusquement le besoin de retrouver dans l'objet d'art, entre guillemets, sur le bel objet, l'objet magnifiquement fait, autre chose qu'une simple délectation esthétique, mais un contenu social. Alors le contenu social, il a disparu aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de projet social. Le contenu historique a disparu parce qu'il n'y a plus de projet historique. Et toute la grande peinture du réalisme socialiste soviétique a totalement disparu. Qu'est-ce qui reste ? Il reste l'icône, ce qu'on appelle l'icône priée dans la tradition russe. Donc là, brusquement, il y a une espèce de retournement extraordinaire du musée imaginaire de Malraux. Le musée imaginaire de Malraux, c'est le musée véritablement qui vide l'œuvre de ses origines, de son sens et de son contenu, pour en faire un objet d'art. Quelle que soit son origine, aujourd'hui au contraire, on se dit mais finalement, qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on voit ? Rien. On prend le musée imaginaire de Malraux à rebours et on va lui redonner peut-être une espèce de sens et de contenu qu'il a entre-temps perdu.
Et l'art n'a-t-il pas non plus déserté les lieux de culte ?
Ah oui, alors c'est un autre problème. Il faudra encore 2 heures pour en parler. C'est le total désarroi des gens d'église face à l'art et leur incapacité.
D'église ou de...
Ou toutes les religions possibles. Je ne vois pas aujourd'hui une église, quelle qu'elle soit, redevenir...
Les églises de votre enfance ?
Commanditaire de... Les églises, moi, elles sont redevenues nues parce que les tableaux, les statues ont été volées. Alors. question est réglée.
Oui, volée ou bien vendue.
Ou vendue
aussi, souvent, bien sûr, c'est vraiment ça disparu.
C'est certain, bien sûr. Donc ça est devenu des temples protestants. Il n'y a plus rien sur les murs. Très bien.
Toujours à propos d'art, selon vous, les écoles d'art n'auraient plus rien à transmettre. J'aimerais que vous puissiez vous exprimer à nouveau là-dessus. J'imagine que vous êtes forcément attaché aux valeurs de transmission. Vous avez eu pour maître André Chastel et Jean Grenier. Donc comment peut-on penser vraiment que les écoles d'art n'ont plus rien à transmettre ? Peut-être transmettre tel mal, mais plus rien.
Parce que transmettre quelque chose, ça suppose qu'il y ait une maîtrise à transmettre. Qu'il y ait une maîtrise, ça suppose qu'il y a des maîtres. Qu'il y ait des maîtres, ça suppose qu'il y a une doctrine. Mais encore une fois, je ne succombe pas à un pessimisme intégral. Ce n'est pas du tout ça. Vous avez aujourd'hui des tas de formes d'expression artistique où il y a une transmission, où il y a une maîtrise et où il y a une perfection. Je pense, je prends deux exemples, la danse, la musique. Je pense qu'il n'y a jamais eu des danses aussi belles, des spectacles de ballet aussi beaux que ceux que l'on a aujourd'hui. Beaucoup plus beaux qu'autrefois, d'après ce que l'on peut reconnaître, évidemment. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une maîtrise du corps, une maîtrise physique du corps, qui est aussi sans précédent à ce point-là. Et par conséquent, vous assistez à des spectacles d'une absolue perfection qui suppose aussi une transmission d'une maîtrise. Même chose pour les voix. Je pense que les voix d'opéra aujourd'hui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus étonnantes que les voix d'opéra, telles qu'on peut les écouter à travers des enregistrements, d'il y a seulement 30 ou 40 ans. Parce que là aussi, une maîtrise de la voix extraordinaire, qui passe par un apprentissage extrêmement dur, extrêmement long. Évidemment, vous n'avez pas ça dans les arts plastiques. Qu'est-ce que vous voulez transmettre ? Vous avez des masterclass. Les masterclass, vous les avez en musique, vous les avez dans la danse. Vous les avez pas en arts plastiques. Et pour cause ? Pour apprendre quoi ? Il n'y a pas de maîtrise.
Il y a encore des lieux d'excellence quand même ? Pour révéler
les
artistes que pour enseigner ?
Tout ce qu'on pourrait demander au minimum, évidemment, à une école des beaux-arts, ce serait d'enseigner, enfin d'épargner les expériences malheureuses. Tout simplement d'apprendre une certaine cuisine pour les pigments, pour les produits chimiques que l'on utilise. Ça ferait gagner du temps pour les gens qui veulent encore faire de la peinture, à supposer qu'il y en a encore. Mais ça n'est plus le cas. Ou enseigner la gravure, éventuellement. Il y a les classes de gravure. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait encore beaucoup dans les écoles d'art de province ou même à Paris, lorsqu'on considère que c'est fini. C'est terminé.
Pourtant, les graveurs se battent sur ce sujet.
Oui, les graveurs se battent, je sais, mais ils se battent dans le vide parce qu'ils ne sont pas écoutés par les institutions qui devraient les soutenir et qui ne les soutiennent pas.
Vous pensez qu'il y a une faillite des institutions ?
Dans ce domaine-là, oui, tout à fait.
Dans le domaine de l'art, en général ?
Dans le domaine des arts plastiques.
Des arts plastiques ?
Encore une fois,
si on parle de musique
ou si on parle de danse ou de musique, vous avez une excellence.
C'est peut-être une des causes principales, à vos yeux, de ce que vous qualifieriez de déclin. Les institutions a-t-elles vraiment des conséquences lourdes ?
Je pense qu'elle a des conséquences lourdes, oui.
Vous avez écrit, il y a déjà plus de 20 ans, un petit livre sur la responsabilité
de l'artiste. De l'artiste, oui.
Qu'est-ce que vous diriez 20 ans après, donc justement ? Est-ce que ça a vieilli ? Est-ce que votre propos est...
Non, je ne crois pas du tout. C'est très orgueilleux de ma part de dire ça, mais je posais le problème très précisément dans ce livre de la responsabilité de l'artiste face à... Je crois que le sous-titre était « Entre terreur et raison ». L'art entre terreur et raison. C'est-à-dire quelle a été la responsabilité de l'artiste dans l'établissement de régimes totalitaires, avec les meilleures intentions du monde, bien sûr. Et je montrais en fait la collusion entre certaines théories d'avant-garde et les régimes les plus meurtriers qu'on ait pu imaginer. Donc il y a effectivement une responsabilité de l'artiste au sens de son implication dans une certaine inhumanité qui s'est établie au XXe siècle dans les rapports sociaux. Je vais donner un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Certains architectes qui ont bâti les camps de concentration sont des architectes qui ont été formés par le Bauhaus. C'est-à-dire que la rationalité du Bauhaus, que l'on vante tellement encore aujourd'hui, a été aussi une rationalité qui a apporté certaines des choses les plus épouvantables de notre époque, à travers les camps, à travers aussi une certaine idée de la ville, de l'urbanisme, un spectacle quotidien insupportable, ainsi de suite. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'époque actuelle se rapproche de l'époque des années 30, 40, où on ne percevait pas ce qui allait se passer ? Il y avait cette tentation totalitaire,
oui,
mal perçue. Mais les artistes, certains l'ont très bien perçu,
pourtant. Bien sûr.
Mais cette déshumanisation, les conséquences de la globalisation font-elles craindre des pouvoirs plus importants ? Je ne sais pas si on les qualifiera ou on peut les qualifier de totalitaires déjà, avec des outils comme Internet. Aujourd'hui, c'est quand même très différent d'autres époques.
C'est très difficile de répondre à une question aussi vaste. Mais si vous voulez, encore une fois, sous réserve, ce qui différencie aujourd'hui les années 30, c'est que dans les années 30, l'idéologie jouait un rôle extraordinaire. Les intellectuels travaillaient tous, écrivaient tous, peignaient tous sous la bannière d'une idéologie, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. En tout cas, ils y croyaient. Ils y croyaient à quelque chose. Ils croyaient en gros au progrès, qu'il fût marqué par, encore une fois, à droite ou à gauche. Ils croyaient au progrès. Idéologie. Aujourd'hui, l'idéologie n'existe plus. Donc, c'est pas du tout l'instinct grégaire de se réunir selon ses affinités ou ses croyances ou ses foi politiques. On a plutôt l'impression aujourd'hui d'un sauf-qui-peut général. puisque ça suppose le désarroi.
Bon, je ne vais pas comparer, mais dans cette incertitude, dans cette faillite que vous dénoncez souvent...
Vous parlez d'Internet, là aussi, tout de même, pour pas que vous me rangiez parmi les vieux. Je me sers d'Internet à peu près 40 fois
non,
par jour.
Non, mais
le problème, c'est que bon, Internet, c'est à la fois la chose la plus belle du monde et la plus horrible. C'est à la fois le tout à l'égout, parce que quand vous passez à travers les blogs, vous êtes vraiment dans le tout à l'égout, dans la cloque à maxima de la romantique. Et en même temps, il est évident que si vous cherchez des choses très précises, c'est un instrument, mais absolument magique, extraordinaire. Vous trouvez des choses comme ça immédiatement, qui avant Internet auraient supposé des jours et des jours de recherche en bibliothèque. Et là, vous les trouvez tout de suite. C'est fabuleux.
Vous voyagez par Internet, vous avez été aussi un grand voyageur, vous avez vécu ailleurs. Parmi vos ancrages, Venise a beaucoup compté. J'aimerais qu'on en parle un petit peu quand même pour aller sur la fin de cet entretien. Qu'a représenté Venise comme ancrage pour vous dans votre parcours ?
Régulièrement, j'y vais, j'y ai vécu.
Vous l'avez découvert très jeune.
D'amis, j'ai découvert très jeune. J'ai passé 2 jours en prison à Venise. Très très fier de cela tout de même. Bonne à tout le monde d'aller passer 2 jours en prison à Venise. Donc j'ai commencé à Venise en prison, c'est très bien. Et puis aujourd'hui, bon, Biennale de Venise, c'était 98 je crois d'ailleurs, pas 94, mais peu importe. Centenaire de la Biennale de Venise, bon, j'y ai passé 2 ans. Puis j'y ai beaucoup d'amis, mais je sais pas, c'est toujours gênant de parler de Venise. C'est une ville pleine de connotations un peu ironiques, on sourit toujours, à Venise. Vous connaissez le pamphlet de Régis Debray contre Venise, ainsi de suite, on a souvent parlé. Mais malgré tout, Venise est une ville de toute façon extraordinaire, c'est une ville merveilleuse, magique. Cette espèce de ville envahie par les eaux.
C'est là que vous avez découvert l'art ?
Non, c'était beaucoup plus tôt, dans des conditions beaucoup plus simples. Cette ville envahie par les eaux a quand même une magie extraordinaire. Cette ville à moitié engloutie, c'est quand même extraordinaire, extraordinaire. Puis elle est belle de bout en bout, il n'y a pas un aspect de la ville qui ne soit pas beau, y compris dans les quartiers les plus pauvres. Donc cette espèce d'unité, de formosité, pour utiliser un terme italien.
Et... Vous parliez de Torcello tout à l'heure.
Oui, Torcello aussi, qui est la première ville où les Vénitiens sont établis avant Venise même. L'idée étant la même, évidemment, se protéger des ennemis extérieurs en campant au milieu de la lagune. Tout ça est très étonnant. Alors évidemment, maintenant, l'envahissement des touristes, le dépérissement total de Venise. Venise aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a 45 000 Vénitiens qui vivent à Venise, alors qu'en 45, il y en avait... plus de 400 000.
Est-ce que c'est une ville-musée, à vos yeux ?
Ah oui, ça préfigure ce que sera Paris dans 10 ans. Parce que Paris commence d'être une ville-musée.
Amsterdam
une ville...
aussi ?
Amsterdam un peu moins, mais c'est un petit peu cela. Je crains malheureusement que beaucoup de villes européennes deviennent des villes-musées, oui. On ira pour contempler la gloire d'une époque disparue, mais pas tellement plus.
Juste pour finir, est-ce que vous pourriez nous parler des œuvres d'art que votre regard croise au quotidien, chez vous, dans votre quartier, histoire de terminer sur une exposition qui n'existera jamais ?
C'est essentiellement des plaques de marbre qui rappellent ici et là qu'un tel a vécu ici, qu'un tel a... Et c'est très fabuleux parce que le quartier derrière la place des Victoires, qui est un quartier qui a été dans le quartier des Halles pendant très très longtemps, en fait, au XVIIIe siècle, était véritablement le cœur intellectuel de Paris, beaucoup plus que Saint-Germain-des-Prés. Au XXe siècle, Palais Royal, c'était le lieu des écrivains, des musiciens... des poètes, donc un peu partout on voit sur les murs le rappel de Diderot, de Couperin, de Liszt qui habitait juste derrière chez moi, si j'ose dire, de Lautréamont. C'est un quartier totalement pénétré par l'histoire intellectuelle, en tout cas jusqu'à l'arrivée des pavillons de Baltard.
Donc on n'a pas eu de nom d'œuvre d'art,
non.
C'est ça
non.
Qui est extraordinaire,
non.
Mais merci d'avoir terminé cette émission sur cette petite exposition improvisée. Mais vous avez évoqué bien des mots et des auteurs, des écrivains, des grands noms de l'histoire, tout simplement.
Voilà.
Merci Jean-Claire d'être venu nous parler.
Merci à vous.